This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, 1925, est une année particulièrement intéressante sur le plan du rapport à l'autre. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'aux États-Unis, cette année-là, plusieurs États du Sud interdisent tout simplement l'enseignement de la théorie de l'évolution de Darwin à l'école. Pour avoir enfreint cette interdiction, John Scope, professeur de sciences, est condamné à Dayton, dans le Tennessee, au cours d'un procès retentissant de 12 jours. Ceux qui sont les plus actifs contre la théorie darwinienne de l'évolution se nomment d'une sorte de slogan, le KKK. Alors à certains, ça évoque peut-être quelque chose, c'est le Ku Klux Klan. En 1925, on estime à 4 millions le nombre de membres de cette organisation. Malheureusement, cette organisation aura une longue pérennité et a toujours aujourd'hui une longue pérennité. Écoutons ce reportage en 1988 que fait une chaîne de télévision française, la deuxième chaîne, Patricia Charnelet, au sujet de la convention démocrate qui a lieu à Atlanta.
Cette manifestation avait été interdite, mais malgré cela, plusieurs dizaines de partisans de ce mouvement, qui s'intitule nationaliste, sont descendus dans la rue. Ils ont été aussitôt isolés par la police, sous l'œil des contre-manifestants. Reportage Paul Nahon et Francis Friedland.
Nous sommes à Atlanta, à quelques centaines de mètres à peine de la convention démocrate. Ici, ces manifestants protestent contre un défilé que veut organiser le Ku Klux Klan dans une autre partie de la ville. Le Ku Klux Klan est une organisation encore très puissante dans le sud des États-Unis. Le racisme est le fondement de son idéologie.
Le Ku Klux Klan représente une organisation chrétienne, n'oublions pas de le dire, qui est contre tout ce qui n'est pas chrétien et tout ce qui n'est pas blanc.
À l'autre bout de la ville, les troupes du Ku Klux Klan qui, à la dernière minute, ont été empêchées de défiler. La police craignit en effet des heurts violents à quelques heures de l'ouverture de la convention. Voici quelques morceaux choisis de leur idéologie. Nous sommes une race supérieure, les Noirs avec les Noirs. Ici, on travaille très dur. Et qu'est-ce qu'on voit ? Tous ces sales nègres qui nous piquent notre fric pour acheter des voitures. Ils ne foutent rien, j'en ai ras-le-bol. Nous, on veut l'argent car on travaille. Plus question de leur filer un rond. C'était des esclaves, ils sont libres, qu'on les renvoie maintenant chez eux. Je suis contre Jackson et Dukakis. Tous ces communistes et ces PD qui sont en ville, j'espère qu'ils vont tous attraper le sida. Puis un noir s'est approché d'eux. Les noirs représentent 60% de la population à Atlanta et dans le sud du pays. La police est arrivée très vite car plusieurs fois déjà le Ku Klux Klan en a lynché en Géorgie ou en Alabama. Foutez-le en tôle, pas de pitié, ont crié les membres du clan. Le clan est encore une terrible réalité aux États-Unis.
Alors le mot Ku Klux Klan vient du grec kouklos, qui signifie cercle. C'est l'un de ses fondateurs, James Crow, qui a eu l'idée de séparer le mot en deux et de changer la fin, ce qui donne Ku, plus loin Klux, dont en latin Lux signifie lumière. Et comme les fondateurs ont tous des ancêtres écossais, un autre fondateur, John Lester, propose de rajouter le mot clan à la fin, en remplaçant le C de clan par un K, et de manière à transformer, à uniformiser la première lettre de trois mots, K, K, K. Alors la création du Ku Klux Klan est à l'origine une conséquence directe de la défaite des troupes confédérées sudistes contre les unionistes nordistes, les Yankees. Donc ceci nous ramène à la fin de la guerre de sécession et s'inscrit durant la période extrêmement tendue de l'histoire des États-Unis, avec notamment l'assassinat du président Abraham Lincoln en 1865. Les massacres des Noirs à Memphis et à la Nouvelle-Orléans en 1866 et la procédure de destitution du président Andrew Johnson de 1867 à 1868. Le Klan a été fondé dans la nuit du 24 au 25 décembre 1865 par 6 jeunes officiers sudistes. John Calvin Jones, Frank O'McCord, Richard Reed et John B. Kennedy. Deux sous-officiers également, John C. Lester et James Crow, donc celui qui va devenir le grand maître du Klan. Ils habitent tous la ville de Pulaski dans le Tennessee. Alors des tentatives sont faites pour créer une structure allant des groupes locaux dans les comtés jusqu'à une organisation nationale. Et peu à peu, les choses prennent. Un questionnaire est à soumettre aux nouveaux membres avant l'admission et il est conçu comme pour tester l'adéquation des idées du candidat avec celles du clan, en particulier sur la supériorité des droits des Blancs sur les Noirs, bien entendu. Cependant, les structures locales demeurent autonomes et aucune structure intermédiaire au niveau des États-Unis ou des districts n'est mise en place. L'association s'inspire de fraternités, de regroupements divers, mais elle n'arrivera jamais à devenir un parti politique. En fait, c'est une organisation suprématiste blanche, protestante, qui couvre l'ensemble des États-Unis. Bien que classée à l'extrême droite sur l'échiquier politique américain, elle n'a jamais cependant eu une véritable influence politique, sauf une influence occulte, bien entendu. Et c'est donc une organisation de défense, de lobbying des intérêts, des préjugés, des éléments traditionnalistes et xénophobes de certains blancs protestants. Ils s'appelaient eux-mêmes les White Anglo-Saxon Protestants. Ils se revendiquent donc comme une sorte de race supérieure, une communauté ethnico-religieuse qui bénéficie de la suprématie blanche dans une interprétation très particulière de la Bible. Au XXIe siècle, elle est surtout devenue une nébuleuse d'organisations plus ou moins formelles et structurées, légales ou clandestines et souvent rivales entre elles. Cependant, elle demeure encore aujourd'hui la manifestation de cette idée qu'il y a une race blanche qui s'oppose aux autres races, noires, asiatiques, immigrés chinois, communauté arabe, hispanique, cubain, portoricain et autres. J'en passe et des meilleurs. Même les Européens, polonais, italiens, irlandais, sont considérés comme d'obédience catholique, donc pas tout à fait net. Alors, cette organisation qui existe encore malheureusement aujourd'hui part du principe, donc, comme je le disais, qu'il y aurait une opposition de race. Alors, je ne saurais trop vous renvoyer à un très beau texte d'un très grand ethnologue, en l'occurrence Claude Lévi-Strauss, qui, en 1948, à la demande de l'UNESCO, écrit une communication qui s'appelle « Race et histoire ». Dans ce texte, Claude Lévi-Strauss montre et démontre qu'il n'y a pas des races, mais qu'il y a une race. Il y a une unicité de la race humaine. Alors qu'il se décline ensuite sous la forme de différentes couleurs, de différentes habitudes, cultures, civilisations, mais il n'y a qu'une race humaine et la formule sanguine est là pour le prouver, entre autres choses. Nous avons tous le même sang à partir de la même formule de base qui circule dans nos veines à tous, quelle que soit notre couleur. Thank you. moment où certains parlent de différences racistes, eh bien, l'un de ceux qui allait créer la musique du XXe siècle, l'innovation du XXe siècle, le jazz en l'occurrence, eh bien, Louis Armstrong enregistre, lui, en décembre 1924, ce Cakewalking Babies avec son groupe intitulé les Red Onions Jazz Babies. Il enregistre donc au cornet en compagnie de Sidney Bechet, saxophone soprano, Lil Armstrong, son épouse, au piano, Buddy Christian au banjo, Josephine Betty et Clarence Toss. Le King Louis, comme on l'appelait, on disait qu'il était capable d'improviser pendant une heure de rang sur le même thème, sans souffler et sans s'arrêter, tant son imagination musicale était débordante. Il en est un autre qui avait lui aussi ce sens de l'entertainment, comme on dirait aux États-Unis, du spectacle et de la plaisanterie. C'était le pianiste Fats Waller que je vous propose d'écouter tout de suite. Fats Thomas Waller, donc pianiste, alors qui a débuté comme pianiste de bar, voilà, qui peu à peu, qui est un autodidacte complet et qui peu à peu va jouer sur tous les claviers qu'il peut trouver et notamment sur les claviers d'orgue. Là, en l'occurrence, c'est l'orgue de la petite église de Camden dans le New Jersey où il aura plusieurs fois l'occasion d'enregistrer. Et là, en l'occurrence, avec donc à la fin du morceau, Alberta Hunter qui chante avec lui, enregistré le 20 mai 1925. Alors là, c'est une composition de W.C. Handy, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Fats Waller, donc dans ces années-là, 24, 25, 26, c'est un musicien qui va énormément composer, et notamment énormément de standards, enfin, qui vont devenir des standards, mais qui seront des best-sellers. Alors j'en citerai quelques-uns au hasard. Enfin, au hasard, pas tellement au hasard que ça. Ben, y a « Ain't Misbehaving »,« I'm Crazy About My Baby », il y a « Laughing Crying Blues »,« I'm Coming Virginia ». Et alors, on lui attribue également « The Sunny Sunny Side of the Street » ou « I Can't Give anything, You Anything But Love » ou « If I Had You », qui seront ces trois derniers qui seront vraiment des tubes pour l'époque, qu'il composera avec un autre musicien qui s'appelle Andy Razaf, un parolier avec lequel il va écrire toutes ses chansons. Alors tous les deux ont un tempérament un peu ombrageux, et donc à l'époque il n'est pas rare de les voir se battre au moment de déposer les partitions chez les éditeurs. Leurs relations sont très orageuses. Tantôt ils s'entendent comme Laurent en foire, et tantôt ils se bagarrent jusqu'à en venir aux mains dans les bureaux même des éditeurs de musique. Alors, il y a un média qui va jouer un rôle très, très considérable. À partir de 1923 jusqu'en 1929, Fats Waller va faire des émissions de radio. Et donc, il va jouer et enregistrer pour la radio, faire des... Et il est un peu le meneur de jeu. Il a une voix assez nasillarde, il interpelle les musiciens. Enfin, il fait l'animation dans le studio. Et donc, c'est un élément tout à fait considérable qui va... imposer le jazz à la radio. Et donc, Fats Waller est un musicien qui aura joué un très grand rôle, à la fois sur le plan des compositions, sur le plan du jeu de piano qu'il a transformé, à partir du ragtime, il a créé un style qui lui était propre. C'était un animateur né, un sens de l'humour très développé, et un meneur d'hommes, et puis un homme de radio, même si il n'a pas pu faire cette chose, être un homme de radio très longtemps, puisqu'il est décédé relativement jeune. Alors il y avait, hein, ces années-là, beaucoup de groupes qui s'étaient engouffrés dans cette musique nouvelle naissante, qu'enfin on appelait jazz, l'appellation d'aujourd'hui. En voici un nouveau. Thank you. Black Rag, une belle composition qui est un petit peu datée, mais qui est enregistrée donc le 23 janvier 1925 par l'Original Tuxedo Jazz Orchestra. Alors c'est un groupe extrêmement intéressant parce que on ne fait à ce moment-là, on commence à improviser. Certains musiciens commencent à décliner les chorus, à se succéder en improvisation, mais il n'y a aucune improvisation collective. Et le Tuxedo Jazz Orchestra, lui, va peu à peu arriver à faire improviser, ce qui crée une espèce de musique qui paraît un petit peu brouillée, mais en réalité, où chaque musicien joue sur la base de la grille, il joue sa propre partition. Alors le chef de ce groupe s'appelle Oscar Célestin et les musiciens le surnomment Papa, Oscar Papa Célestin. Et c'est comme ça qu'il va signer tous ses enregistrements. C'est un orchestre qui a commencé à être connu dans les années 20 et donc en 25, il est au sommet de sa gloire. Il est très apprécié. Alors c'est un des grands orchestres de la Nouvelle-Orléans. Il peut jouer immobile, mais il peut jouer aussi pour les parades. Il joue en marchant, etc. Et donc, Papa Célestin fait jouer tous ses musiciens et les amène peu à peu à apprendre leur musique et à développer des formes d'improvisation collective. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde improvise sur sa propre ligne, mais qu'en fonction de la grille, il y a même les musiciens qui jouent en contrepoint de celui qui est le soliste, eh bien, ils font des variations, et donc ce qui enrichit considérablement la musique des orchestres. C'est à ce titre qu'il a joué un rôle, ce Oscar Papa Célestin, et qu'il connu une grande notoriété qui dura, il a eu une carrière d'une quarantaine d'années, et donc avec une énorme notoriété en Louisiane. D'autres orchestres se sont fait connaître cette année-là, et notamment le Halfway House Orchestra.
Thank you.
Oh yeah. Barataria, donc un morceau enregistré le 22 janvier 1925, donc à la Nouvelle-Orléans par le Halfway House Orchestra. Alors ça, c'est un orchestre intéressant aussi parce que d'abord c'est un orchestre de blanc, alors que le précédent était un orchestre de noir. Et c'est un orchestre de club parce que le Halfway House était un club de la Nouvelle-Orléans dont l'animateur était le cornettiste qui est le chef de cet orchestre, donc Albert Bruniz, qui donc jouait en compagnie de Joey Locaiano au trombone, Léon Rapolo à la clarinette qu'on entend assez longuement dans le morceau et qui a déjà une très très belle sonorité, très boisée, très chaude. Charlie Cordella au saxophone alto, Mike Marcourt au piano, Bill Eastwood au banjo. Banjo qui est un des instruments qui disparaîtra au fil du temps et que l'on n'entendra presque plus, même quasiment plus de nos jours. Léo Abdé à la batterie, donc un orchestre de blanc, de club, et qui n'a rien à pâlir, n'a rien à envié à l'orchestre qu'on entendait précédemment et qui était composé que de noirs. Alors, il est un autre instrument, le banjo allait disparaître, mais il y a un instrument qui allait venir sur le devant de la scène qui n'est pas un instrument qui était pratiqué au début du jazz, donc c'est le violon. Alors, le dernier morceau qu'on va écouter, c'est donc ce morceau concilie à la fois l'arrivée du violon sur la scène jazz et en même temps manifeste ce que je crois avoir déjà signalé dans une émission précédente, l'arrivée des duos. Peu à peu, le jazz devient plus complexe, devient plus élaboré, et on commence à assister à des duos. Eh bien là, on a le duo et le violon, et ça s'appelle « Stringing the Blues ». Thank you. Stringing the Blues, alors c'est un morceau qui utilise la structure harmonique de Tiger Rag, un morceau lui alors beaucoup plus connu. À partir de cette structure harmonique, eh bien, les deux musiciens, Joe Venuti et Eddie Lang, ont tenté une variation, mais à partir d'un autre tempo, d'une autre conception harmonique, avec donc deux cordes. À signaler que les deux musiciens sont d'origine italienne, Joe Venuti, ça s'entend, Eddie Lang, ça s'entend moins, mais c'était aussi un Italien, un Rital, comme les appelaient leurs collègues musiciens. Et donc, c'est un morceau qui allait faire beaucoup d'effets, notamment dans le milieu des musiciens, et qui allait donner des idées à beaucoup d'autres pour décliner comme ça certaines grilles harmoniques de certains instruments et ainsi créer un autre morceau. Ils s'y sont pris à 3 ou 4 fois et ils ont fini par l'enregistrer le 8 novembre 1925. Voilà, ainsi s'achève ce nouvel épisode de 1925. Demain, ce sera une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours, cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.